Seigneur, nous voulons te remercier pour ces offrandes, Seigneur. Merci de nous donner la sagesse de les utiliser pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très sérieux. Parce que d'habitude, c'est pas sérieux. Mais c'est très sérieux parce que sans ça, on ne verra pas Dieu. Vous savez de quoi je vais parler ? De la sanctification. Mais on va voir un peu dans le détail ce que ça veut dire réellement. Genèse, chapitre 1, verset 1. C'est au tout début de la Bible, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est plus facile pour chercher. C'est la première page après le sommaire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu dit que cela était bon, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. Chacun selon leur espèce, ayant eux leur espèce sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Et cela, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue des ciels, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'il sert de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. Je pourrais continuer comme ça jusqu'au sixième jour. Qu'est-ce que l'on voit ? C'est un récit que tout le monde a lu plusieurs fois. Qu'est-ce que l'œuvre créatrice de Dieu, finalement ? Qu'est-ce qui fait Dieu ? Il crée la terre et les cieux. Mais il y a des choses qu'il fait que l'on voit. Il sépare. Plusieurs fois, il dit, il sépare. Il nomme, il appela. Et il met les choses à sa place. La terre passe du chaos. Au début, la terre était informe et vide. Pour aller vers l'ordre. Et l'hétérogénéité, c'est-à-dire ce qui est tout mélangé, c'est comme quelqu'un qui range sa chambre. Un gamin, il a tout en vrac, les Lego, les Playmobil, tout est en vrac. Et il sépare les Playmobil d'un côté, les Lego de l'autre, les nounours. Troisième côté. Bon, il ne fait pas que ça, il les crée aussi. Il crée et il sépare. Et il nomme. Chaque élément prend sa place, ses limites, sa fonction et son identité. C'est pour ça qu'il dit le sec pareil, c'est un moment dans d'autres passages, il dit que il dit à la mer, là sera ta limite et tu n'iras pas au-delà. Il parle aussi aux éléments. C'est important de savoir ça parce que c'est la base de la sanctification. C'est la base de la sanctification. L'œuvre de différenciation commence par Dieu et sera aussi continuée par l'homme, puisque l'homme, la première chose, son premier boulot quand il est créé, c'est de faire quoi ? Nommer tous les animaux en disant « Toi, tu es une girafe, toi, tu es un éléphant. » Et Dieu donne à l'homme une identité, notre identité. Et l'identité, notre identité, chaque identité de chacun, quelle que soit son origine, se révèle dans la différence, et la différence nous identifie. Dans Romains 12, je le lis à chaque fois, mais j'aime le lire. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Grosso modo, ne vous conformez pas au siècle présent, et autrement dit, restez à votre place. C'est dans l'ordre. Dieu, vous avez vu, il a séparé les éléments et les a mis à sa place. Après, il y a toute l'image du corps, le corps de Christ. Chacun a sa place, une fonction dans le corps. Le siècle présent, qu'est-ce qu'il nous dit en ce moment ? Il nous parle d'égalité à tout prix. La femme est un homme comme un autre. Où l'homme est une femme. Où on ne naît pas femme, on le devient. Ça, c'est Simone de Beauvoir. Le siècle présent veut faire disparaître toute différence, toute identité, l'égalité des sexes, la laïcité pour faire disparaître toute différence de religion et de ne laisser qu'une, celle de la franc-maçonnerie. Mariage pour tous, au moment qu'on s'aime, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel ou autre chose, au moment qu'on s'aime, l'amour élevé sur un piédestal, l'amour le mauvais, hein, pas celui de la Bible, élevé au rang de choix et de critères. Réussite pour tous, que tout le monde ait le bac. Donc du coup, le bac, on le nivelle par le bas, hein, ben, il n'y a pas de discrimination, hein, celui qui est mauvais, il ne faut pas qu'il soit mauvais parce que ça va le traumatiser. Il ne faut pas qu'il soit le premier de la classe parce que celui-là, il est mauvais. Les régions, ben, tout ce que vous avez appris en géographie, vous l'oubliez, hein, maintenant, on perd entièrement notre identité. Et je veux ici rattacher notre identité, ce que Dieu nous a fait, à notre sainteté. La sainteté, c'est quelque chose d'important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelque chose de vital pour nous. Dans Hébreux 12, on peut le relire, ce passage. Au verset 14. rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. Et il y a plus loin, que nul n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. C'est des paroles très dures. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là, je mets la barre très haute. Ça plombe l'ambiance. Dans 1 Pierre, on peut continuer. 1 Pierre chapitre 1 et au verset 15. Même le lire au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois, mais quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça aussi, ça place la barre très haute. Hein. Et il y a le dernier, c'est dans Matthieu 5. Et là, j'achève tout le monde. Parce que là, c'est Jésus qui parle. Au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ah, il y a encore du monde là, qui m'écoute ? La moitié de l'église n'est pas partie déjà. La barre est très haute au niveau de la sanctification. Mais, comme d'habitude, je vais poser la même question. Ça veut dire quoi, être saint ? Est-ce que vous avez une définition de ce qui est sainteté ? Saint, ça veut dire quoi ? Moi, dans ma petite tête de chrétien d'il y a 30 ans, c'était je vais m'efforcer de ne pas pécher, d'être un joli, timide petit garçon, de suivre Jésus, d'être bien religieux pour vivre une vie de sainteté. Ça a essayé, je me suis ramassé des gamelles, Dieu sait combien je m'en suis ramassé. J'essayais de nettoyer la coupe par l'extérieur, comme disait Jésus, et l'intérieur était toujours aussi sale. Il n'y avait plus les conséquences, mais la cause est encore là. Ça, c'est la mauvaise sanctification. C'est celle que on pense tout de suite, sanctifiez-vous. Alors, on va faire un peu d'hébreu. Saint en hébreu, c'est kadosh. Et la signification de kadosh, ça renvoie aux notions de perfection, plénitude, unité, achèvement, intégrité. Et intégrité, on l'a vu la dernière fois, ça veut dire quoi ? Être entier. Il signifie aussi, dans sa deuxième signification, être séparé, distingué, différencié, mis à part pour un but particulier. Là, on retrouve le récit de la Genèse. Dieu, quand il a créé la terre, qu'il a dit au ciel, t'es là-haut, à la mer, t'es en bas, au sec, t'es à droite, à la mer, t'es à gauche, aux animaux, ben, vous êtes là, et à l'homme, tu seras là. Il sanctifie la terre dans le sens sanctifié. Il met à part, il met les choses, il différencie, il nomme pour un but particulier. Pour l'humain, pour nous, l'humanité, créée à l'image de Dieu, vous vous souvenez qu'il dit « faisons l'homme à notre image », ce qu'il n'a pas dit pour les animaux. Être saint signifie entre autres se distinguer des autres catégories de la création, et plus particulièrement de l'animal. Vous savez que l'animal a été créé le même jour que l'homme, de la même manière, c'est-à-dire de la poussière du sol, de la terre. C'est au sixième jour, les bestiaux, je ne parle pas des oiseaux ni des poissons, mais les bestiaux terrestres, puisque la Bible nomme les bestiaux, ont été créés de la même manière que l'homme. Il y a une différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal est caractérisé par la pulsion et l'instinct, selon ce qu'il voit. Il peut être en mode chasse ou en mode maternel. D'ailleurs, c'est comme ça que des fois, il y a des lions, des lionnes qui adoptent des gazelles, parce que la gazelle a une attitude qui lui a fait penser plus à un enfant qu'à une proie. Mais c'est des instincts. Être saint, c'est être séparé. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça veut dire donc de bannir de notre vie tout ce qui est confus, mélangé, hybride, non distinct et impur. C'est être un, comme l'Éternel est un. C'est d'être entier, parce que séparé est différencié. Et qu'on se mette ça bien dans la tête. Être séparé, être différencié. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, ça donne une autre dimension à la sanctification. Le porc dans l'Ancien Testament est impur. Vous savez pourquoi il est impur, le porc, le cochon? Oui. Parce qu'il est hybride. Les ruminants sont purs. Les ruminants sont purs, mais ceux qui ont le sabot fendu sont purs. Et le porc a le sabot fendu. Donc il est pur. On pourrait dire, d'ailleurs c'est une expression qu'on avait vue en Israël, montrer patte blanche, ça veut dire montrer patte de porc, parce qu'il a sa patte, elle est cachère. Mais il ne rumine pas, c'est un mélange. Il est mélangé d'un animal pur, d'un animal impur. Les animaux qui ne ruminent pas sont impurs. Et le porc a le mélange des deux. On pourrait voir son sabot en disant ben, il est pur. Mais non, il est impur, parce qu'il ne rumine pas. La loi de Moïse avait pour fonction pédagogique de garder le peuple de Dieu de tout mélange. Tout mélange. De confusion dans tous les domaines. On peut le lire dans Lévitique. Lévitique 19. Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point les bestiaux entre deux espèces différentes, tu n'en semenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Tu ne mélangeras pas, c'est la base de la loi de Moïse. Dans Deutéronome 22, on peut le lire aussi pour les vêtements, vous allez me dire, à quoi ça sert? C'est pour ça que ceux qui disent « je respecte la loi », ils devraient déjà regarder de comment ils sont habillés déjà. Deutéronome 22, verset 11. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Ça veut dire quoi? Ton vêtement, s'il a de la laine et s'il a du lin, il n'est pas saint. Il n'est pas sanctifié, il est mélangé. Et ça va beaucoup plus loin. La laine, c'est d'origine animale. Le lin, c'est d'origine végétale. Et c'est notre sanctification. Tout à l'heure, j'ai dit que notre sanctification, c'est de nous séparer de ce qui est animal en nous, en tant qu'homme, créé à l'image de Dieu, de prendre la nature divine. Et là, c'est pareil. Si tu mets de la laine dans ton vêtement n'est plus saint, tu es mélangé entre l'animal et le sacré. entre le, parce que le lin, c'était la tunique des sacrificateurs, donc le lin avait une notion de sacré végétal. L'animal agit par instinct, impulsion, alors que l'homme est doué de pensée, de raison et de contrôle. L'homme, c'est le seul, je dirais, c'est le seul animal, entre guillemets, qui peut se contrôler. L'homme qui se conduit comme un animal, et Dieu sait qu'il y en a, tombe dans la perversion et pense que tout lui est dû à l'instant, comme l'animal. Un animal, tout lui est dû à l'instant. Il voit une proie et il court derrière. Aucun mélange dans notre vie. Alors, quelques exemples concrets. Le premier, on l'a, c'est une qui est encore d'actualité. C'est la théorie du genre. Pour la Bible, toute personne est son corps. Ils ont été créés mâle ou femelle. C'est ce que dit dans la Genèse. Et donc, il doit être construit conformément à son sexe. Le passage est dans Deutéronome 22 au verset 5. Vous êtes sur la même page. Une femme ne portera pas un habillement d'homme et l'homme ne mettra pas des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est bien sûr dans le sens transgenre. C'est-à-dire de vraiment, c'est pas comme certaines églises le disent, que les femmes n'ont pas le droit de porter un jean. C'est dans le sens vraiment travesti. Et là, c'est dans la sanctification. La prise de conscience aussi, dans la Bible, de la différence des générations. On n'est pas par hasard sur terre. On est fils d'eux. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Et quand vous regardez la Bible, ils sont un peu lourds des fois, les généalogies. Même la généalogie de Jésus remonte à Adam. Et un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Mais pourquoi Dieu, si la Bible est inspirée du Saint-Esprit, pourquoi tu mets autant d'importance à nous raconter que, voilà, que c'est fils de Joseph, qui est fils de Jacob, fils de ceci, fils de cela? Parce que pour Dieu, la génération est importante. Je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Et Jésus l'a dit que c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils sont plus là, qu'ils sont pas vivants. Ils sont là, spirituellement, ils sont dans le ciel, quelque part. Mais la promesse a été faite à David. Et 400 ans après, ou 500 ans après, même si Jérusalem est détruite, comme j'avais dit la dernière fois, la promesse est encore là. Dieu attache une importance à la lignée et à la génération. Et tout homme est héritier des générations qui le précèdent. Ça, c'est important. La prise de conscience d'une destinée. Dieu nous a placés là, nous a séparés là, nous a appelés, nous a sanctifiés, nous a séparés, ça veut dire, pour un but, pour une destinée, pour son service. À nous de savoir quelle est notre destinée. Quelques exemples de manque de sanctification, je vais peut-être pas trop m'y attarder, mais un truc tout simple. Quand l'homme confond son épouse et sa mère, dans le sens où il prend son épouse pour sa mère, c'est-à-dire il cherche en son épouse, je parle pas sexuel, hein. Quand il cherche de son épouse ce qu'il avait avec sa mère, la maternée, on dit. Quand l'homme cherche à être materné par son épouse, c'est une confusion générationnelle. Sa mère et sa mère, son épouse et son épouse. C'est un manque de sanctification, dans le sens kadosh du terme. Quand l'homme ou la femme place son enfant dans une position de confident, il y a inversion générationnelle. L'enfant est placé dans une position de thérapeute et de parent. L'enfant n'a pas à être le parent de ses parents. Et ça, Dieu sait combien dans les divorces, le problème des enfants dans les divorces, c'est que tout d'un coup, ils sont placés dans une culpabilité, parce que la plupart pensent que c'est de leur faute, mais en plus, ils se deviennent le confident du parent restant, ou du parent trahi, ou du parent... C'est un manque de sanctification, selon le terme Kadosh Litem. On peut aller plus loin, on va nommer un chat un chat. L'inceste, c'est une confusion générationnelle, le mélange des fonctions de parents et d'amants. Zoophilie, ce qui est écrit dans la Bible, dans Lévitique 18, c'est une confusion entre l'humain et l'animal. L'homosexualité, c'est une confusion et le refus de la différenciation des sexes. Le déni de l'altérité, l'amour du semblable, la fascination du même et une forte idolâtrie du moi. Là, je précise, ce qui est condamnable, c'est l'homosexualité. Et pour l'Église, dans l'Église, on a un problème, c'est qu'on confond souvent l'homosexualité et l'homosexuel. J'ai Gilles Boucomeau, qui est pasteur de l'église du Marais, qui disait « L'homophobie dans l'église est parfois bien plus problématique que l'homosexualité, car elle consiste à détruire la personne au nom du fait qu'elle a un problème comportemental, et il n'y a pas d'attitude plus contraire à l'évangile que cela. L'homosexuel n'est pas plus grand pécheur que celui qui est cupide, qui a soif de posséder, que celui qui est dans l'adultère, même s'il est hétérosexuel. Méfions-nous, parce que le dialogue a été tellement passionné il y a quelques années, et j'entends encore des trucs, des pasteurs qui peuvent se permettre de dire que les homosexuels, il ne faudrait pas se que les brûler. Non, l'homosexuel, c'est un manque de sanctification, comme tous les autres manques de sanctification qu'il y a eu par rapport à ce que j'ai cité précédemment. La cupidité, le consumérisme, on en a parlé, c'est une idolâtrie aussi. Et bien sûr, l'homosexualité, si on la continue, c'est encore un sujet d'actualité, c'est une souffrance, parce qu'elle induit l'impossibilité de transmettre la vie et de s'inscrire de manière claire dans la succession des générations voulues par Dieu. Je vous ai parlé que Dieu, fils d'eux, il n'a pas prévu ni la PMA, ni la GPA. Pour être identifié, il faut être séparé et sanctifié. Dans 1 Jean, vous pouvez lire 1 Jean. Au chapitre 2. Au verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On ne peut pas avoir des mélanges dans notre vie. Et là, on revient au Nouveau Testament. On ne peut pas être mélangé avec le monde. Si vous êtes chrétien, c'est une attitude. La sanctification est une attitude, est une position. La position d'être séparé. Je décide que je suis séparé. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, je suis séparé du monde. Dans Marc 12, 28, « Un des scribes qui avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demande « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Tu aimeras l'Éternel ton Dieu en entier. Séparé, en entier. Il y a un passage comme quoi la sanctification vue de la manière hébraïque est parfois bizarre. C'est dans le Lévitique 13:13. Je voulais le citer parce qu'il y a une importance dans ce passage. C'est parler de la lèpre. Vous savez que le lépreux dans l'Ancien Testament était impur. Dès qu'il y avait de la lèpre qui sur le corps de quelqu'un, il était déclaré impur. Jusqu'au moment au verset 13, il est dit « Et quand il en a vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie, comme il est entièrement blanc, devenu blanc, il est pur. » Le lépreux est complètement lépreux. Le lépreux est complètement lépreux. De la tête aux pieds, dans certaines traductions, il est dit des cheveux jusqu'aux pieds. Complètement lépreux. Il redevient pur, il est sanctifié. Dans le sens hébraïque du terme, il est sanctifié. Pourtant, il est complètement malade. Hein. Il est entièrement malade. Mais il n'est plus mélangé. Il n'y a plus de la chair pure et de la chair impure. Enfin, la maladie est complète. Et c'est un peu le passage qui veut dire « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. » On pourrait dire « Soyez donc entier. » comme votre Père Céleste est entier. D'où l'importance, la base de la sanctification, c'est d'être entier. Comme David était entier. David avait un cœur selon Dieu, il était entier. Il n'était pas séparé, il n'était pas partagé, contrairement à Saül, qui était religieux. David était entier. Ce n'était pas empêché que de pécher entièrement. C'était pas ça ce qu'il faisait David. Il a tué, il a piqué la femme d'un mec et il l'a tué en plus. Ça, c'est pas de la sanctification. Et pourtant, il avait le cœur selon Dieu, il était sanctifié selon Dieu. Parce qu'il était entier. Il faisait des fautes, mais il était entier. À nous maintenant, 1 Thessaloniciens 5, pour conclure, on pourrait en parler des heures et des heures de ça, mais ça change, enfin j'espère, c'est le but, que vous changiez votre optique de la sanctification dans le sens biblique du terme. Que ça soit plus quelque chose de religieux, mais que ça soit quelque chose qui soit vraiment dans le fond du cœur. Que vous compreniez ce que ça veut dire pour Dieu, être entier. Thessaloniciens 5. Au verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est qui le fera? C'est vous?
C'est lui.
C'est lui. C'est lui qui le fera. Et il le fera à quelles conditions? Il y en a une quand même. C'est que vous soyez tout entier à lui. Vous devez veiller, votre sanctification, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de mélange. C'est beaucoup plus simple déjà. Blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. Et contrairement au relativisme de la société qui dit que tout est relatif, le gris, même s'il est omniprésent, même dans cette église, est belle la porte, n'existe pas. Le gris, c'est un mélange de blanc, c'est un mélange de noir. C'est mélangé, c'est une couleur mélangée. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Le gris n'existe pas. Quand je dis gris, je parle de la société. N'existe pas. C'est blanc ou noir pour Dieu. C'est lumière ou ténèbres. Vous la lisez dans Éphésiens 5, je ne peux pas le lire, mais autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. C'est ce que dit revêtez-vous de votre nouvelle nature. Quand il parlait du vieil homme, l'ancienne nature, vous pouvez lire tous les épîtres de Paul. Il n'est parlé que de ça, de mélange entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Séparez-vous, vous étiez ténèbres, vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Ne revenez pas à des mélanges, ne mélangez rien. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Dans Hébreux 10, 14, Hébreux 10, 14, il est écrit, par une seule offrande, c'est quoi cette offrande? Le sacrifice de Jésus sur la croix, sa mort et sa résurrection. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui ou non? Il n'y a pas beaucoup d'impact. J'entends ici des quelques réponses, mais... Ouh, il y a quelqu'un? Oui. Vous êtes amené à la perfection. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est fait. En Jésus-Christ, par une seule offrande, vous êtes parfait. En lui. Vous allez me dire, ouais, mais moi quand je vois ma vie, David avait le cœur selon le cœur de Dieu. Quand il voit sa vie, c'est pas un prétexte pour pécher. C'est notre position séparée en Christ. Quand vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, c'est fait. Vous êtes séparés déjà. Et séparés, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont séparés. Il a amené à la perfection ceux qui sont séparés. Ce n'est pas du futur. C'est pas dire... il va amener à la perfection pour toujours ceux qui seront sanctifiés. C'est pas écrit comme ça. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste ainsi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité, car là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Amen. Et en conclusion, 1 Corinthiens, vous connaissez tous, 1:30. 1 Corinthiens 1, 30. Mais je vais le lire un peu avant. 1, 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Ça, c'est notre position. On est les plus folles du monde, on est les plus viles du monde, on est les plus faibles du monde. Ça nous situe le débat. Vous voyez, tout à l'heure, on disait soyez à votre place, restez à votre place. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Aucun de nous peut se glorifier devant Dieu. Si quelqu'un se glorifie, c'est qu'il n'a rien compris. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Même le fait d'avoir un jour choisi Jésus-Christ, c'est grâce. C'est lui qui vous a appelé, c'est pas vous qui avez. C'est lui qui vous appelle. C'est lui qui vous choisit. Lequel de par Dieu a été fait pour nous, Jésus-Christ, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin qu'il est plus comme il écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Aucune part, la sanctification, elle est en Jésus-Christ. La séparation est en Jésus-Christ. Donc la sanctification n'est plus une question de moralité. Et plus qu'une question de moralité. Elle est plus qu'une question de moralité, c'est pas n'est plus. Excusez-moi. Si notre comportement est différent de celui de notre entourage, du fait que nous soyons entiers pour Dieu et séparés du monde, c'est juste ce que Dieu nous demande. C'est que nous sommes à part et nous partageons donc la vie de Christ par le Saint-Esprit qui nous donne une nouvelle identité et fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est là-dessus que Dieu dit, enfin que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Des fois, on ne s'en rend pas compte combien on est observé. Parce que pour les gens du monde, pour les personnes qui ne connaissent pas cette vie, ne connaissent pas cette sanctification, le fait d'être uniquement séparé pour des choses simples, être séparé, on est déjà une lumière. La sanctification, c'est pas. Et plus que cette question de moralité, de dire ben voilà, je suis sans péché, je suis ceci, je suis cela. C'est mon attitude est complètement différente sur tous les sujets. Quels que soient les sujets, elle est complètement différente parce qu'elle est. La sagesse de Dieu, c'est Dieu qui nous a séparés, c'est pas nous. On n'est pas une religion, on est en relation avec Dieu. Il y aurait plein de choses à dire sur la sanctification, parce que sanctification, ça veut dire aussi séparer, ça veut dire aussi relation. Relation avec Dieu, dans Jean 17:17, où Dieu nous dit, on est un, le Père et moi nous sommes un, comme vous êtes un en moi. Ça, c'est la sanctification aussi, puisqu'on est entier avec Dieu. Et quand je dis entier avec Dieu, c'est qu'on est vraiment en relation totale avec Dieu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité, Seigneur, et c'est cette parole, cette vérité qui nous sanctifie, qui nous met à part, Seigneur, qui nous sépare du reste du monde. Et nous voulons vraiment que cette parole agisse dans nos cœurs, Seigneur, que nous ayons plus un cœur partagé, que nous soyons plus dans un pied à droite, un pied à gauche, mais vraiment que nous nous appliquions à être entiers pour toi, Seigneur, dans l'intégrité. C'est la seule attitude que tu nous demandes. Et après, la sanctification, c'est toi qui l'accomplis en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous sommes en toi séparés. Nous sommes en toi, Seigneur, et nous voulons vraiment te rendre grâce d'avoir ce privilège de participer à cette œuvre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur, et pour le monde entier. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est imméritée, Seigneur. Mais c'est justement là que la puissance de ta grâce, c'est que c'est un don que tu as fait pour ceux qui ne le méritaient pas, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Thank you.